Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le journal radiophonique amplifié numéro 59 du jeudi 16 janvier 2020. Ce soir, il est 20h25, il est un peu tard pour commencer un JRA, mais on va le faire tout de même avec les petits retards techniques et les petits aléas du direct. Tout de suite, on commence sans attendre et sans prendre encore plus de retard. L'actu mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
On commence tout de suite avec le journal. On va parler des retraites, on va parler de violences policières, de l'Iran, de la chaleur et de l'Australie. Mais on commence avec le national et un tout petit point sur les mobilisations, puisqu'aujourd'hui c'était une journée de manifestation. Alors, après 6 semaines de grève et de très nombreux rassemblements partout en France, la contestation du système à points porté par le gouvernement est toujours en vigueur. Aujourd'hui, l'intersyndicale avait appelé à une 6e journée de mobilisation. La participation était en légère baisse par rapport aux précédentes. La CGT a revendiqué 250 000 manifestants contre 370 000 à Paris le 9 janvier. Et le chiffre avancé pour Lyon était de 16 000 à la place de 27 000 le 9 janvier. La police, elle, a compté 6 600 manifestants. Malgré cette diminution, la mobilisation parvint à tenir sur la durée et au sein des cortèges, les corps professionnels représentés sont nombreux, les enseignants, les personnels hospitaliers, les avocats, les cheminots. À Lyon, il y avait aussi le domaine de l'énergie, de la culture, les étudiants. Et en dehors des manifestations, la grève continue amener des troubles dans les transports autant à la RATP qu'à la SNCF et 4 raffineries sur 7 connaissent toujours des difficultés. Si le gouvernement a accepté de supprimer l'instauration progressive à partir de 2022 de l'âge pivot, associé à un bonus-malus, l'opinion publique soutient majoritairement la poursuite de la contestation. De nouvelles manifestations ont été annoncées pour le 22, 23 et 24 janvier. Et tout de suite, on parle des hôpitaux avec toi, Marie.
Oui, un petit point sur la situation. Mardi, 1200 médecins hospitaliers avaient annoncé démissionner de leur fonction d'encadrement, estimant insuffisants les 200 millions débloqués par le gouvernement pour 2020 en faveur de l'hôpital public. Pour eux, il faudrait ajouter à cette somme 600 millions d'euros pour garantir un hôpital public de qualité. Le personnel hospitalier dénonce un manque de personnel et de lits, un sous-financement institutionnalisé et l'introduction d'un objectif de rentabilité qui s'est résumé à une demande de faire plus avec bien moins. En grève depuis parfois plus de 10 mois, les médecins et aides-soignants ont exprimé leur colère face à des situations inacceptables, une infirmière pour 13 lits dans beaucoup d'hôpitaux, des transferts dangereux dus à la dévalorisation financière et des situations aux urgences qui restent inacceptables. Également évoqué, un salaire des infirmières dans les hôpitaux publics français classé 28e sur les 32 pays de l'OCDE, les postes vacants et le rôle trop important octroyé aux directeurs d'hôpitaux, une situation plus urgente que jamais.
Et on parle aussi des enseignants avec toi, Martin.
Et oui, entre 2019 et 2020, on a baissé de 10%. Je ne parle pas ici de décroissance, mais bien du nombre d'inscrits au concours du CAPES et de la GREG. Alors, je calme tout de suite mes camarades qui, derrière moi, trépignent de joie en se disant que le nombre de places va augmenter et qu'ils vont sûrement avoir une place.
Oui, je les vois dans le studio, ils trépignent de joie, c'est incroyable.
Mais non, en fait, ce nombre de places a également baissé. Si j'en crois Le Monde, qui a publié un article sur le sujet, ceci est dû à une baisse d'attractivité des concours de l'enseignement, baisse que l'on connaît, pour être plus précis, depuis 2016. Aujourd'hui, même les matières SVT et SES, qui étaient jusque-là les seules épargnées par cette baisse d'attractivité, ont connu respectivement une baisse de 15% pour la SVT et une baisse de 22% pour la SES. L'allemand étant, bien sûr, la plus sévèrement touchée. En cause, les salaires médiocres des professeurs, la longueur des études demandées pour arriver à ce poste, mais aussi la hausse des contractuels. Pour remédier à cette situation, le ministère dit vouloir communiquer mieux sur les métiers de l'enseignement, ce qui va sans doute tout arranger, et délivre une enveloppe de 500 millions, va débloquer une enveloppe de 500 millions d'euros, ce qui va permettre à ces chers professeurs de payer leur retraite.
Et on reste dans le domaine de l'enseignement avec la réforme du supérieur et de la recherche.
Et oui, l'on continue dans cette thématique de la précarisation avec la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est une loi aujourd'hui encore en préparation et dont on ne garde qu'une, dont on a pour l'instant qu'une idée générale. Idée générale constituée de deux principaux éléments. Tout d'abord, le budget. Le budget, on n'y touche pas. Quand on ne le baisse pas, il stagne. Ce qui va sans doute provoquer une multiplication des postes non renouvelés, voire supprimés. Le deuxième élément important de la réforme est son esprit, l'esprit de la mise en concurrence. Cette mise en concurrence se fera par plusieurs propositions concrètes. Tout d'abord, la mise en place de CDI projets, qui sont des CDI qui se termineront sans titularisation, ce qui permettra d'engager une armée de précaires. Mais aussi, par exemple, par la mise en place pour les chercheurs, le retour pour les chercheurs à une modulation des heures d'enseignement, et enfin l'instauration de cadres d'évaluation à l'échelle locale, davantage qu'à l'échelle nationale, qui permettront de juger de la bonne marche de cette compétition.
Merci Martin, et tout de suite on part à l'international et on fait un petit point sur la Russie.
Oui, alors hier se tenait à Moscou le sommet de la Russie, présidé par un Vladimir Poutine qui a clairement fait comprendre ses intentions pour son pays. Le président a d'abord limogé son premier ministre, Dmitri Medvedev, pourtant connu pour sa loyauté, ainsi que tout son gouvernement. Poutine a ensuite désigné comme nouveau premier ministre Mikhail Mishustin, inconnu du grand public mais patron du fisc russe. À Moscou, Vladimir Poutine a également annoncé plusieurs réformes constitutionnelles qu'il entend faire voter par référendum. Parmi les modifications de la Constitution qui ont été évoquées, renforcer les pouvoirs des gouverneurs régionaux, obliger les candidats à la présidentielle à avoir vécu en Russie les 25 dernières années, et surtout interdire aux membres du gouvernement et aux juges d'avoir des permis de séjour à l'étranger. Poutine a également annoncé que la Russie devait rester, je cite, « une république présidentielle forte » et qu'à ce titre, le président pourrait limoger tout membre du gouvernement ou de la Cour suprême, nommer les chefs des structures de sécurité et briguer plus de deux mandats consécutifs. Et si Poutine donne au Parlement le rôle d'élire le Premier ministre, on rappellera qu'il ne prend qu'un faible risque étant donné que les deux chambres de ce Parlement sont aujourd'hui majoritairement pro-Poutine. Interdit de se représenter pour briguer un quatrième mandat, Poutine n'entend donc pas lâcher les rênes de son pays et prévoit déjà une stratégie efficace pour garder le pouvoir jusqu'à son départ, et même après, en 2024.
Et tout de suite, on va aux États-Unis.
Oui, alors un petit point primaire américaine, avec à moins de deux semaines du premier vote de ces primaires-là, qui se déroulera dans l'état de l'Iowa le 3 février, un tout dernier débat chez les démocrates qui a fait couler de l'encre. À son centre, le socialiste Bernie Sanders, qui n'a pas hésité à tirer à balles réelles sur l'autre favori de cette primaire, l'ancien vice-président Joe Biden, pour son vote en 2002, autorisant Bush à attaquer l'Irak. Alors que l'ambiance était déjà tendue, une autre polémique a explosé avec les révélations de la chaîne CNN affirmant que M. Sanders avait déclaré fin 2018 à Elizabeth Warren, troisième favorite, qu'une femme ne pourrait pas gagner la présidentielle contre Donald Trump. Situation en réalité un peu plus complexe puisque Bernie Sanders affirme qu'il n'a pas dit cela et... Le sénateur indépendant, qui pourtant tient un dossier impeccable et souvent considéré comme le plus progressiste des candidats démocrates, très proche d'ailleurs du phénomène Ocasio-Cortez, dit que cette phrase doit être recontextualisée dans une discussion qui parlait de l'histoire des femmes qui s'étaient portées candidates aux présidentielles américaines. Affaire à suivre, en tout cas.
Et on reste aux États-Unis.
Oui, bah enfin aux États-Unis, mais aussi en Chine, parce que Donald Trump a signé un accord mercredi dernier, un accord commercial préliminaire avec le vice-premier ministre chinois Liu He, un pas de géant, je cite, pour rééquilibrer le commerce entre les deux grandes puissances économiques. Accord qui suscite cependant quelques réserves aux États-Unis. Pour contextualiser, je vais citer le président états-unien, c'est pas à mon plaisir, mais bon, je vais le citer quand même. « Aujourd'hui marque une étape historique qui n'avait jamais été franchie vers un accord commercial juste et réciproque entre les États-Unis et la Chine », a donc déclaré le président américain lors d'une très longue cérémonie à la Maison-Blanche. Bon, déclenché au printemps 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées déloyales, un conflit entre la Chine et l'Amérique, auquel cet accord met partiellement fin, s'était matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises échangées chaque année. Pour l'heure, ce traité profitera donc essentiellement aux agriculteurs et industriels qui avaient été victimes collatérales de ce conflit. La Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années afin de réduire le déséquilibre commercial, grande revendication de la Maison-Blanche. L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert des technologies, autres grandes exigences des États-Unis.
Merci Nicolas, et c'est la fin de ce journal. On passe tout de suite à la revue de presse et on fait le tour de l'actualité dans les journaux.